Frères et sœurs, bienvenue à tous et à chacun, chacune pour ce moment de culte que nous allons vivre ensemble. Le micro est allumé là ? Oui, d'accord. Je vais en voir. Nous allons vivre ensemble en ce quatrième dimanche de l'Avent. En effet, cette période est le temps de l'Avent de Dieu, le temps où Dieu nous fait signe. Alors, ouvrons grand nos yeux et nos oreilles, Dieu se montre, Dieu parle. Regardons, écoutons, il est tout proche. L'Avent est le temps de l'écoute, le temps où lentement nous apprenons à recevoir Dieu, à découvrir les signes à travers lesquels il parle. Il est temps de nous mettre à l'écoute de la parole, de tracer avec le Christ un chemin de lumière pour nos frères et sœurs. Il en va comme au temps de la Genèse. Aux heures du commencement. Tout n'est que désordre, chaos, et la terre semble informe et vide. Elle est enveloppée d'un voile d'obscurité. Elle n'entend plus les paroles d'espérance. Lorsque tout s'éteint autour de nous, c'est alors seulement que l'on observe le mieux les signes, comme dans les nuits noires et étoilées. Aujourd'hui, dit Dieu, l'espérance va naître. Regardez, je vous donnerai des signes. Relevez la tête pour reprendre courage. Un enfant va naître. C'est le signe. Je vous invite à vous lever. Seigneur, donne-nous les paroles qu'il faut pour te chanter, te proclamer en vérité. Amen. Nous voici rassemblés en ton nom. C'est avec le psaume 80, des extraits, que nous louons Dieu aujourd'hui. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois, visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Et nous chantons le psaume 66, les strophes 1, 2 et 4. Page 78. Prenez place. Enfin, enfin un dimanche de l'Avent normal. Nous avons eu le culte famille, nous avons eu le culte avec la chorale, nous avons eu ensuite le culte de fête de Noël, et pour la première fois, un culte de l'Avent, sans particularité. Alors je dis un peu vite parce qu'il est un peu particulier, puisqu'il se trouve entre la fête de Noël et Noël. Bon. Mais on va essayer de le vivre le plus paisiblement, le plus normalement possible. Et je vous propose de placer notre vie sous le regard de Dieu et de reprendre avec moi, de temps à autre, le refrain suivant, parler, hein, la réponse, « Seigneur, aie pitié de nous. » Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, disait Jésus. Mais nous ne sommes repentis qu'à moitié. Nous ne t'avons pas reçu comme notre roi. Nous ne t'avons pas acclamé en te chantant. Béni soit celui qui vient au Seigneur. Seigneur, viens, aie pitié de nous. Seigneur, tu as dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais nous nous sommes cru riches, ignorant notre pauvreté. Nous ne t'avons pas adressé notre prière fervente. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, tu as dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Rarement nous avons versé des larmes de la repentance, mais souvent nous avons pleuré de dépit à cause de nos échecs. Seigneur, aie pitié de nous. Nous t'en supplions, purifie-nous de notre péché et par la grâce de l'Esprit, délivre-nous du fardeau de nos fautes. Ainsi nous pourrons aller à ta rencontre, toi qui viens, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pardonné, nous pourrons chanter notre confiance en Dieu, ton Père et notre Père, avec le psalmiste d'autrefois et les croyants d'aujourd'hui. Amen. Nous restons assis pour chanter Jésus le Christ, lumière intérieure. Je veux écouter ce que dit Dieu le Seigneur. Il dit paix. Paix pour son peuple, pour ses fidèles, pour ceux qui lui font de nouveau confiance. Oui, son aide est immense, est imminente pour ceux qui reconnaissent son autorité. Sa gloire habitera bientôt notre terre. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous ayons la vie par lui. À cause de cette parole et de tout l'Évangile, il est permis de dire à tous ceux qui se repentent et qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, « Le Dieu Tout-Puissant nous fait miséricorde, il nous pardonne nos péchés et il nous conduit à la vie éternelle. » Amen. Tu consoles et tu pardonnes, nous pouvons nous lever. Libérés et pardonnés, écoutons ce que Dieu nous donne la force de faire. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et que quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en gage pour la multitude. Et voici comment notre Seigneur Jésus-Christ résume toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Transmets la nouvelle. Prenez place. Deux lectures pour aujourd'hui. Alors, pas tout à fait, puisque c'est le même passage, mais coupé en deux. Ce sera l'évangile de Luc. Si je dis pas tout. Oui, c'est ça, au chapitre 1. Avant d'écouter la lecture de la Bible, nous prions. Père, ta parole est pour nous, ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Luc, chapitre 1. Nous lirons du verset 39 au verset 45. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur.
Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle.
Écoute, entends la voix de Dieu. Tu es bénie entre toutes les femmes. Oui, oui, dès maintenant et en tout temps, les humains me diront bienheureuse. Bénie et bienheureuse Marie. Sujet de discorde entre les chrétiens des différentes traditions. N'exagérons pas toutefois ces différences. Un jour, je me préparais à célébrer un service funèbre dans une église catholique. Une dame que j'avais involontairement dérangée dans ses oraisons est venue me demander ce que je fabriquais là. Après avoir entendu mes explications, elle s'est gentiment éloignée avant d'opérer brutalement à demi-tour et revenir vers moi. À ma grande surprise, et à mon grand amusement aussi, elle m'a déclaré qu'elle me haïssait. En mettant en quid des raisons de cette haine subite, j'en reçus l'explication. C'est parce que nous détesterions la Vierge Marie. Je la rassurai, en souriant, en lui promettant que, contrairement à ce que l'on entendait parfois, les protestants n'ont rien contre la Vierge, contre Marie. Nous ne la respectons pas de la même manière, voilà tout. L'ai-je convaincu ou non, je ne sais, mais l'affaire en est restée là. Et je vais même aller aujourd'hui devant vous plus loin. Je pense que ce cantique de Marie est l'un des plus beaux passages de l'évangile de Luc. Ce cantique ne surgit pas comme ça, n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Il survient à la suite d'une rencontre où, selon la logique humaine, rien ne va. Nous avons deux femmes, toutes deux enceintes, l'une trop âgée, l'autre trop jeune, ou du moins enceinte trop tôt. L'une dont la maternité va enlever la honte, l'autre à qui elle pourrait la porter. Deux enfants, deux fœtus, qui vont être par la suite amenés à proclamer la gloire de Dieu et à mourir tragiquement. Et l'un des deux enfants à naître reconnaît l'autre, on ne sait trop comment. Rien ne va non plus lorsque la plus âgée rend hommage à la plus jeune en dépit des conventions sociales. Qu'Élisabeth, dont le mari Zacharie a été rendu muet, se mette à prophétiser, a de quoi désarçonner une jeune fille déjà bien perturbée par ce qu'elle a vécu auparavant. Dans ce contexte bien flou, bien trouble, il n'est pas tellement surprenant que Marie se mette elle aussi à prophétiser des bouleversements encore plus grands. Car ce cantique prophétie, on ne sait, les deux sont mêlés, montre une femme capable de discerner, à travers des signes ténus, la grandeur du royaume à venir. Une femme qui se réjouit malgré les apparences. Car à regarder simplement, il n'y a pas de quoi se réjouir. Les orgueilleux ne sont pas en déroute. Les humbles sont toujours au dernier rang. Il existe toujours des affamés. Et les riches ont toujours les mains pleines. Ce qui nous trouble dans ce cantique, c'est l'utilisation du passé composé qui indique un fait accompli et notre expérience du quotidien qui nous montre que rien n'a changé depuis la nuit des temps. Mais pour celui ou celle qui regarde avec les yeux de la foi, la réalité des choses ne se confond pas avec les apparences. Pour les chrétiens, la réalité, c'est le royaume des cieux qui s'est approché, qui continue de s'approcher. Le royaume de Dieu a surgi dans notre monde il y a maintenant 2000 ans. Le royaume des cieux s'est manifesté sous la forme d'un enfant fragile. Le royaume est là, sous nos yeux. Saurons-nous le distinguer sous le voile sombre de l'injustice, de la souffrance et de la violence ? Serons-nous capables de voir au-delà des apparences et de percevoir dès maintenant, ici, les signes du royaume? Aurons-nous, 2000 ans après elle, la même foi que la jeune Marie? Ou continuerons-nous de vivre comme si le royaume n'avait jamais fait irruption dans le monde et dans notre vie. Percevoir le royaume des cieux, c'est sentir des actions de Dieu dans notre vie quotidienne. Mais les actions de Dieu ne sont pas toujours des miracles impressionnants. Ce sont souvent de petits actes effectués par des gens ordinaires. Les prophètes qui ont annoncé le royaume n'exhortaient pas leurs auditeurs à l'attendre passivement, les bras ballants. Mais ils invitaient leurs auditeurs à l'action, à préparer le chemin pour le Seigneur, comme le proclamera le Baptiste, l'un des deux enfants dont parle notre récit. Préparer le chemin du Seigneur consiste aussi à affirmer que si le royaume de Dieu, le royaume des cieux s'est approché, notre monde n'est toujours pas ce royaume. Ou inversement, il nous faut dénoncer l'injustice de ce monde tout en proclamant que le royaume s'est approché. Tout se joue dans cette opposition. Un monde soumis au mal et un royaume de Dieu qui surgit, çà et là, au milieu des hommes et des femmes, comme le ferait un enfant. Marie nous invite à reconnaître dans cet événement banal, un enfant qui naît, le salut du monde. Saurons-nous le percevoir ? Suffirait-il de percevoir les signes pour être de bons chrétiens, de fidèles disciples du Christ, des enfants de Noël ? Eh bien non. Nous sommes appelés non seulement à percevoir, mais également à être des signes du royaume à venir. Sommes-nous de ceux dont la vie, l'existence et les actions montrent, indiquent la venue du royaume des cieux ? Laissons-nous, comme Marie, transparaître à travers nous cette joie que nous proclamons ? Donnons-nous envie aux autres de chercher avec nous les signes du royaume ? Sommes-nous de ceux qui apportons aux pauvres la bonne nouvelle, qui proclament à ceux qu'enferment les tombeaux qu'ils sont désormais libres ? Comment ? Comment être signe du royaume ? Comment prendre soin des désespérés et apporter un réconfort à ceux qui sont dans le deuil ? J'aimerais bien pouvoir vous donner une réponse toute prête, une solution bien précise, mais ce n'est malheureusement pas si simple. Nous avons tous essayé de le faire avec des résultats bien variables. Parfois, nous avons sorti de grandes paroles sur l'espérance, la foi, le courage ou je ne sais quoi d'autre, et nous nous sommes dit « Ah, là j'ai fait un beau témoignage ». Plus tard, nous nous sommes aperçus que nos paroles n'avaient rencontré aucun écho. D'autres fois, à la suite d'une rencontre, nous nous sommes dit « Eh bien là, je n'ai pas été à la hauteur, pas terrible, je n'ai pas su quoi dire ». Et par la suite, nous apprenons que ce peu que nous jugions insignifiant a été d'un grand secours. L'annonce, le témoignage du royaume ne dépend jamais de notre propre force, parfois un peu de notre courage, mais est souvent le résultat de notre faiblesse ou de l'aveu de notre impuissance. Des hommes ont parfois réussi à enthousiasmer les foules avec des discours flamboyants, de grandes phrases qui sonnent claires et des effets de manche impressionnants. Mais ont-ils annoncé leur royaume ou leur propre talent ? Les mouvements provoqués par de cette manière me font penser à la graine tombée sur le chemin. Elle croît rapidement, mais faute de racines profondes, elle se dessèche et meurt rapidement. Nous pouvons être signes du royaume. Nous ne le sommes jamais lorsque nous nous posons en sauveur, porteur de solutions. Nous le sommes souvent lorsque nous partageons la souffrance de nos prochains. Tels les plus grands arbres, le royaume commence par une petite graine tombée au bon endroit. Nous témoignons du Christ ressuscité, de son royaume à venir, pourtant déjà présent, lorsque nous vivons la grâce que nous annonçons et la joie que nous prétendons être nôtre. Lorsque sur nos lieux de travail, de loisirs, de détente, nous laissons déborder la joie dont parle Marie. Il ne s'agit pas de se forcer à être joyeux, ce qui serait une aberration. On est joyeux ou on ne l'est pas. La joie est un fruit de la grâce et de la foi. Si l'on se sent aimé tel que l'on est, accepté malgré ce que l'on est, pardonné de ses manquements, libéré de ses culpabilités, comment alors ne pas se sentir joyeux? Il existe de par le monde des gens dont nous disons « Lui, il a quelque chose en plus, une chaleur, une profondeur, un amour dans le regard. J'aimerais bien, moi aussi, avoir ce plus. » Et pourquoi ne l'aurions-nous pas? Laissons la joie débordante dont le Seigneur est la source irradier notre personne, de telle sorte que nous aussi, nous soyons ce genre de personne. Voilà le témoignage qui nous est demandé, être signe vivant d'une grâce vécue maintenant. Amen.
C'est Mathieu.
Je vous invite à chanter le 34-3104 après la longue attente. Je n'ai pas noté le numéro de page, je vais vous le dire.
310.
Après
Je vous invite à dire ensemble la confession de la foi numéro 2, celle qui commence par « Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu ».
Si, si, si.
Ouais, alors, Nicole qui essaie de perturber le culte. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie, salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint, qui demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les humains sont liés à Jésus-Christ. Je crois que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Chaque jour de ma vie. Seigneur Dieu, éternel est ton amour. Et en réponse à cet amour, nous te faisons don de ce que tu nous as toi-même donné. C'est le moment de l'offrande, le temps du don. Thank you. Nous nous présentons à toi avec cette offrande. Elle est le signe de notre amour pour toi et pour le monde qui nous entoure. Toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Alors c'est une des... Ah non, il est là, Pierre. On a cru que j'avais fait l'église missionnaire. Ben écoute, c'est quand même Nicolas qui va faire des annonces. Tu es en congé, en quelque sorte.
En espérant que je n'oublie pas grand-chose. Donc nous avons la veillée de Noël mardi 24 à 18h30. Le culte de Noël sera mercredi 25 à 10h. On a ensuite le dernier culte de l'année le dimanche 29 décembre, donc dans une semaine, qui sera suivi par un autre culte, le premier culte de l'année le dimanche 5 à 10h, bien entendu, et sans oublier le concert du Nouvel An, qui aura lieu le samedi 4 à 17h30.
Alors, c'est pas tout à fait un concert, si j'ai bien compris, c'est une carte blanche aux musiciens.
Donc, carte blanche aux musiciens.
Donc, si vous avez, si vous savez jouer, allez amener votre instrument.
Est-ce qu'il y a d'autres annonces à faire?
Pierre?
Des nouvelles des uns et des autres.
Pas spécialement.
Pas directement, mais non.
Tu en as, Pierre, ou tu penses à quelque chose de particulier, ou simplement... Non. Alors moi, je voulais juste vous confier un de mes collègues et amis qui était venu une fois ici au culte, qui a perdu sa compagne brutalement à la sortie du culte. Donc, voilà. J'ai juste pensé à lui, il se prénomme Jean, donc si vous pouvez, dans vos prières, penser à lui, à le soutenir. Il ne va pas spécialement bien, vous vous en doutez. D'autres... Des nouvelles. Donc, mardi matin, il n'y a pas de temps de prière à 7 heures. Voilà. Ça reprendra à la rentrée. Et puis, je profite pendant que j'y pense. On va renouveler les cantiques des spontanés. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé, c'est marqué encore Église réformée. Donc ça vous donne un peu une datation de ça. Donc si vous avez des idées, envoyez-moi en disant, tiens, pour une confession du péché en période de l'Avent, par exemple, pouf, pourquoi pas ça? On récolte tout, puis ensuite on verra, on fera un tri, on essaiera de compléter. N'hésitez pas, ça ne veut pas dire qu'on ne s'en sentira pas obligé par vos propositions, mais elles nous aideront volontiers. Donc n'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez des idées de cantiques. Nous allons maintenant partager le pain et le vin. En l'occurrence, c'est du jus de raisin. Mais, on va appeler ça du vin. Chacune est la bienvenue s'il reconnaît Jésus comme sauveur. Les enfants prennent ou ne prennent pas la scène sous la responsabilité de leurs parents. Voilà. Élie est un homme de Dieu. C'est allumé ? Oui, c'est vrai, il faut faire un peu plus. Élie est un homme de Dieu. Il est parfois considéré comme le plus grand prophète du Premier Testament. Ça ne l'a pas empêché d'avoir de grands moments de lassitude. Sur le mont Carmel, il a invoqué Dieu pour qu'il se manifeste en face des prophètes de Baal, et Dieu lui a répondu. Malgré cela, Élie est obligé de fuir pour échapper à la haine de ceux qui veulent le tuer. Dans sa fuite, il est gagné par le découragement. Il s'en va au désert à une journée de marche. Y étant parvenu, il s'assit sous un genêt isolé et il demanda la mort et dit « Je n'en peux plus. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il se coucha et s'endormit sous un genêt isolé. « Lève-toi et mange. » Il regarda. À son chevet, il y avait une galette cuite sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, il but, puis il se recoucha. L'ange du Seigneur revint et le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. »
Élie se leva, il mangea et but, puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. À nous aussi, il nous arrive d'être fatigués et découragés de notre foi. Il nous arrive d'avoir le sentiment que tout est gris, que plus rien ne sert à rien. Il nous arrive d'être la proie d'une immense lassitude. Dans ces moments, nous avons envie de nous arrêter, de marcher, de nous poser là et d'attendre, de nous laisser aller à l'indifférence, à la passivité, à la paresse. Mais parfois, il nous arrive, nous aussi, de recevoir la visite d'un ange. Dans la parole d'un ami qui nous touche et nous porte, dans un encouragement, un présent, une bonne nouvelle, une attention. Dans un verset qui nous rejoint et qui nous parle. Et c'est comme une lumière qui éclairerait notre nuit. C'est comme une parole qui nous dirait « Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » C'est comme une louange qui monterait du plus profond de notre cœur. Et nous allons maintenant chanter « Grain de froment ». À se lever et à se mettre en route, un repas qui donne des forces pour marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Cela ne rappelle-t-il pas une autre nuit et un autre repas? Pendant cet autre repas, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous prions. Dans notre marche, nous nous sommes arrêtés aujourd'hui pour ce temps de culte. Ce temps de repos, de prière, d'écoute de la parole, de partage du pain et du vin. Nous arrivons avec ce que nous sommes, avec notre fatigue et nos lassitudes, notre crainte et nos inquiétudes, notre paresse et nos habitudes. Aie pitié de nous. Nous te prions pour qu'un ange vienne nous visiter, qu'il nous montre dans ce pain et dans ce vin le repas que tu as préparé pour nous. Que sur cette table nous trouvions les signes de la vie, de la mort et de la résurrection de ton Fils. Que cette nourriture nous donne la force de poursuivre notre marche sur les chemins de l'Évangile. Amen. L'ange dit à Élie, « Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. Vous tous qui marchez sur les chemins de la foi, levez-vous, venez et mangez, car tout est prêt. » Je vous invite à prendre avec vous votre cantique.
pain que nous rompons et la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe d'appel que nous partageons est la communion au sang du Christ. Unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle, nos cœurs s'élèvent vers toi dans la prière que le Christ nous a confiée.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous pas porter auprès de la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Pour ce repas qui fortifie notre corps et qui désaltère notre soif, nous te louons. Pour ces signes de ta grâce que tu poses sur notre route, nous te louons. Pour ces forces qui nous permettent de marcher plus loin et plus longtemps, nous te louons. Accorde-nous maintenant la paix, la joie et l'inspiration de ton esprit, pour que nous devenions des anges auprès de tous ceux, toutes celles que nous rencontrerons sur notre route. Nous te sommes reconnaissants, notre Dieu, de pouvoir compter sur ta fidélité et sur la possibilité de quelque chose qui tient du miracle. Nous te sommes reconnaissants pour le témoignage que constituent les vies d'Élisabeth, de Marie, de Joseph, celles de ces pauvres bergers qui se sont trouvés là, alors tu t'as baissé jusqu'à devenir l'un de nous. Leur vie et leur réponse nous mettent au défi. Nous prions parfois pour des situations qui nous semblent sans espoir. C'est impossible, entendons-nous. Parfois, c'est ce que nous disons en nous-mêmes. Élargis notre vision afin que nous puissions voir l'impossible se réaliser dans nos vies. Nous sommes souvent limités par la petitesse de notre foi. Fais-la grandir en nous, nous t'en prions. Dans le silence du cœur, nous t'apportons à présent ceux qui ne voient pas de solution, ceux pour qui la puissance et les capacités du monde actuel ne sont d'aucun secours. Nous te prions pour nous-mêmes et pour ceux dont nous avons le souci. Rends-nous forts et audacieux de cette audace qui nous fait te demander de voir ton règne de justice, de paix s'instaurer sur ce monde qui est le tien.
Quelqu'un, on voulait faire quelques remerciements, vas-y, Jean.
Oui, tout à l'heure, au moment des offrandes, j'ai oublié de remercier Yvon Serge, qui a tout préparé ce matin, Mathieu, qui est à l'orgue, et la personne qui a amené ce magnifique bouquet de fleurs, qui est gay.
Je sais pas.
Yes.
C'est bien,
en tout cas, la personne qui a amené ce magnifique bouquet de fleurs.
Et merci à Nicolas qui a préparé aussi.
Recevons. Suspendez tous les luttes au saule le long des fleuves de Babylone, mais le mien, je ne puis y ajouter. Un instrument rare, le plus rare, fait du bois ordinaire de sapin. Tant que l'on peut comprendre mes paroles, tant que mes doigts peuvent toucher les cordes, je dois chanter pour les misérables, je dois chanter pour les affligés, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui cherchent. Je dois chanter pour les plus petits parmi les petits. Chanter la joie, la délivrance, l'étoile brillante, la gloire du Seigneur. Lui qui m'a offert un luth en bois de sapin et une voix humaine, ordinaire et faible. Suspendez tous les luths au sol le long des fleuves de Babylone, mais le mien, je ne puis y ajouter. Recevons et emportons précieusement avec nous la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et répande sur vous la bienveillance. Que le Seigneur fasse reposer sur chacun, chacune de vous son regard de tendresse et vous accorde sa paix. Allez dans la paix, dans sa paix. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous.
Je vais mettre en normal parce que là ça va.
Oui.
Je suis le frère de Chéra.
D'accord.
Vous avez dû prier dans le groupe de prière pour moi.
Oui.
C'est moi.
Bah, je suis content de vous voir en bonne forme, du coup.
C'est l'apparence qu'on donne, mais l'apparence c'est un peu plus compliqué.
Oui.
C'est pas grave.
Voilà. Non, mais vous étiez carrément hospitalisé, non?
Ah oui, c'était 5 semaines. Donc.
Oui, c'est ça. Donc vous êtes au moins dehors.
Voilà. Donc ça fait.
Oui. Ah bah, c'est pas. J'imagine que ça se guérit pas tout d'un coup.
Non, mais ça. Ça se guérira sûrement jamais, mais oui. L'essentiel, c'est d'être là.
De pouvoir vivre avec vous, oui. Voilà. En tout cas, on est content de faire votre connaissance.
Je vous avais déjà croisé au tout début. Alors, je ne suis pas un fidèle. J'ai été trésorier dans les années 2000, de 2002 à 2010.
Oh là là, on était jeunes à l'époque.
Beaucoup plus jeunes. Et puis voilà.
Très bien, écoutez, je suis content de refaire votre connaissance.
Écoutez, c'est vrai qu'on n'avait pas l'occasion de.
Au début de la prédication, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Je raconte le terme. Quand vous êtes une catholique, vous avez dit, je vous ai dit. Et après, vous avez expliqué et vous avez dit, oui, la Vierge. Alors vous n'avez pas dit, vous ne la reconnaissez pas, vous avez dit.
On n'a pas la même façon de la respecter.
Mais le terme que vous avez employé ne m'a pas plu. Et moi, je dirais. Comment il a dit?
Alors, soyez tous, voyez exactement ce que j'ai dit. Nous ne respectons pas de la même manière. Oui, mais nous, la même pas, justement. Je ne peux pas le dire, nous la vénérons différemment parce que nous la vénérons pas.
Dans la phrase que vous avez
envoyée. Oui. Non, mais voilà, nous ne la respectons pas de la même façon.
Parce que moi je suis d'accord
avec lui. Mais en fait, quand on parle un peu au-delà des simples interjections, on est assez d'accord sur beaucoup de choses avec les catholiques. C'est les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, vraiment, il y avait une amitié vraiment profonde. Je parle toujours de thème qui nous réunissait, puis on pourrait une fois faire un truc, des choses qui nous. Pas qui nous dérangent, mais qui nous séparent. Et on avait dit, pourquoi pas l'Eucharistie, la scène? Oh là là, ça va, non. Vous avez peur de quoi? Vous êtes amis depuis 20 ans, vous êtes en train de vous brouiller là-dessus. Et en fait, on s'est aperçu qu'on était globalement d'accord. C'est-à-dire que le curé disait, oui, le Christ, il est présent dans l'Eucharistie, mais il faut voir ce qu'on entend par présent. Mais nous, on dit aussi qu'il est présent, on dit pas dans l'Eucharistie, on dit qu'il est dans la communion, mais on dit aussi qu'il est réellement présent, spirituellement. Mais les catholiques qui affirment que c'est plus du pain, il n'y en a plus beaucoup. Peut-être qu'ils reviennent, mais...
Oui, c'est ça.
C'est marrant de faire des choses comme ça, si c'est de la bonne humeur. Mais sur le fond, on est globalement d'accord.
Pas vraiment un grand écart,
c'est la façon de... C'est ça. Mais c'est important, la façon.
Oui, non, mais c'est important.